Évangile de Luc, chapitre 6, et on va lire une vingtaine de versets au début. Vous allez voir que la prédication sera ensuite sur 5-6 versets seulement, mais j'aimerais avoir le contexte aussi. Donc on va lire Luc 6, les versets 1 à 21. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans les mains. Quelques pharisiens leur dirent: Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ses gens, bien qu'il ne soit permis, pardon, qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Chapitre 6, verset 6. Hein. Luc 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais il connaissait, c'est-à-dire Jésus connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre? Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: Étends ta main. Il le fit et sa main devint saine. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres: Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Je vais m'arrêter là, mais vous reconnaissez que on arrive dans le sermon sur la montagne, hein, dont on parle avec David, qui a prêché ces derniers dimanches, pardon, sur les béatitudes. Et là, c'est le même sermon sur la montagne que Jésus commence ici dans Luc au chapitre 6. Et moi, le message, ce sera précisément sur les versets 12 à 16, le choix des apôtres par Jésus. Mais avant le message, je vous invite encore à chanter un dernier chant dans le carnet. C'est le numéro 20, qu'on puisse chanter ce cantique vraiment dans un esprit de prière en se préparant à écouter le message. Donc dans le carnet, le numéro 20, au Saint-Esprit, descend sur cette assemblée en prière. En nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière, qu'on puisse vraiment prier ça, par la foi. Saint-Esprit, descend sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles.
Esprit du Dieu saint et jaloux, consume-nous, désir frivole. Ô Saint-Esprit, attaque la terre. Nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière. En nos cœurs faibles, languissants, répands ta force, c'est ta lumière.
J'aimerais qu'on parle un instant ce matin des fondements de l'Église, revenir aux fondamentaux grâce à ce passage de Luc 6, les versets 12 à 16. Le symbole des apôtres que on a lu tout à l'heure et qui est l'une des confessions de foi chrétiennes les plus anciennes, qu'on appelle aussi le credo, hein, parce qu'on répète je crois comme ça, credo, je crois, je crois. On raconte une histoire probablement apocryphe, probablement pas vrai concernant le symbole des apôtres, mais je vous la donne quand même, parce qu'elle concerne justement, on parle justement des apôtres. Ce matin, on dit qu'elle s'appelle le symbole des apôtres, justement, parce qu'il y a 12 affirmations qui sont faites, il y a 12 articles, et on raconte qu'au début, eh bien, les apôtres le répétaient ensemble, un article l'un après l'autre, un credo à son tour, si vous voulez. Alors, c'est peut-être une histoire vraie, peut-être pas, peu importe. Ce qui importe pour nous ce matin, c'est que dans le symbole des apôtres auquel on souscrit dans cette église, que je viens de vous lire, on affirme, vous l'auriez peut-être remarqué, que nous croyons, credo, je crois, dans l'église. Hein, je vous rappelle, il est dit, je crois en Dieu le Père, Créateur Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils, etc., etc. Et puis, je crois, credo, au Saint-Esprit et à la Sainte Église universelle. Autrement dit, on confesse notre foi dans l'église. Ça peut être surprenant. Est-ce qu'on a besoin de foi pour croire dans l'Église? On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin que ça nécessite de la foi, de croire en Dieu. On ne le voit pas. Hein, donc il est normal de confesser je crois en Dieu. Mais pourquoi dire je crois credo à la Sainte Église universelle? On la voit, l'Église. Et la raison, je pense que l'une des raisons pour laquelle il est important de confesser notre foi dans l'Église, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui en France ont abandonné la foi chrétienne, non pas tant parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils ne croient plus en l'Église. Pensez aux nombreuses personnes qu'on connaît, vous en connaissez certainement, qui se disent spirituelles mais pas religieuses. Je crois que ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils arrivent à accepter, ils apprécient l'idée de Dieu, mais qu'ils détestent l'Église. Hein, ils arrivent à avoir une vague croyance en un Dieu, et après il faut voir quelle notion ils vont mettre là derrière, bien sûr, mais qu'ils n'arrivent plus à croire en l'Église. Ils ont été déçus, hein, trompés, peut-être parce que leurs parents qui allaient à l'Église ont montré un mauvais exemple, ou peut-être trompés par les scandales qui ont agité l'Église dernièrement, ou bref, ils ont été déçus. Et même pour nous qui sommes chrétiens, si vous savez, si vous avez été assez longtemps dans une Église, on peut vite être déçu par ce qu'est l'Église, et voire même développer une certaine méfiance à l'égard de l'Église. C'est-à-dire que finalement, ce qui compte surtout, c'est pas tant la vie du corps de l'Église, mais ma vie personnelle et spontanée, ma relation personnelle et spontanée avec Dieu. Certains iront même peut-être jusqu'à dire que l'Église a été formée longtemps après Jésus, après coup, comme par un processus de pétrification lorsque les premiers croyants avaient perdu leur spontanéité du début. Mais c'est faux! Ce que ce passage nous montre ce matin, c'est que l'Église est née de la volonté créatrice de Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'on voit dans ces versets 12 à 16. Vous voyez, Jésus n'appelle pas un groupe de disciples à lui sans les douer en même temps de liens solides, sans poser les fondements de son Église. Et la raison, comme je disais, pour laquelle beaucoup de personnes sont déçues de l'Église, c'est pas, je crois, parce que l'Église serait un accident de l'histoire qui n'aurait pas dû être, mais c'est parce que les fondements ne sont plus là, on a perdu de vue les fondamentaux, d'où l'importance de s'arrêter quelques instants sur ces versets. Bien, dans le récit de Luc, ça fait depuis le début du chapitre 5 que Jésus a appelé des personnes à lui, à être ses disciples, à le suivre. Mais là, il fait un choix. Il doit faire un choix. Et on veut se poser la question, comment ce choix a-t-il été fait? Qui sont ceux qui ont été choisis? Et pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? C'est les trois questions qu'on va se poser. Comment, qui et pourquoi? Donc, premièrement, comment Jésus fait-il son choix, verset 12? Regardez encore une fois. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. On voit Jésus tout d'abord se rendre sur une montagne. Dans l'Ancien Testament, les montagnes, c'est souvent le lieu de théophanie, c'est-à-dire de révélation divine, parce que dans la pensée hébraïque, Dieu vit dans le ciel. Et lorsque vous montez sur une montagne, quelque part, vous vous approchez de lui, vous allez là où Dieu se laisse rencontrer. Et c'est précisément ce que Jésus fait, rencontrer Dieu, puisqu'il passe toute la nuit dans la prière à Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui suit, tout ce qu'on lit par la suite, on doit le considérer comme un acte commandé d'avance à Jésus par Dieu dans la prière. Comment Jésus fait-il son choix? Réponse, il le fait sur commission divine. L'idée même de choisir certains parmi ses disciples pour une tâche, pour un rôle particulier, le choix d'en prendre 12, ni plus ni moins, et le choix de prendre ces personnes-là plutôt, ces 12-là plutôt que d'autres, toutes ces choses-là sont devenues claires pour Christ dans la prière et dans la dépendance à Dieu par l'Esprit. Si vous voulez, Jésus est, on pourrait dire, il n'est que l'agent exécutif du plan de Dieu, hein, comme un ambassadeur qui va dans un pays étranger, qui représente et qui est sous les ordres du pays, du gouvernement qu'il a envoyé. Depuis toute éternité, Dieu a ce plan, ce désir de rassembler un peuple de toute la nation, un peuple innombrable, pour l'adorer et pour vivre dans la communion avec lui. Et suite on pourrait dire aux échecs répétés d'Adam, le premier homme, et puis de Noé, et puis d'Israël, ça c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, suite à leur échec répété, Dieu envoie maintenant son Fils dans le monde pour accomplir ce plan et pour réconcilier un peuple avec lui-même. Jésus est l'agent exécutif de Dieu, et tout ce qu'il fait, du coup, il le fait dans la dépendance à Dieu par l'Esprit. Venez voir avec moi au chapitre 1, verset 35. Si vous revenez au début de l'évangile de Luc, on voit que depuis sa naissance, on voit que l'Esprit était présent personnellement et actif lors de la conception de Jésus. Chapitre 1, verset 35. L'ange parle à Marie et il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi » et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » C'est l'Esprit qui donne la vie à Jésus, et puis c'est l'Esprit qui ensuite qui guide Jésus à chaque étape de sa vie. Venez voir au chapitre 2, verset 40, on avance dans le temps. Chapitre 2, verset 40, on lit ici « Or le petit enfant, c'est-à-dire Jésus, grandissait, et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Si on va un peu plus loin, verset 52 du même chapitre, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Depuis sa naissance, tout au long de sa croissance, Jésus dépendait de l'Esprit, parce que rien de ce qu'il a fait, de ce que Jésus a fait dans son humanité, rien de ce qu'il a fait n'était accompli qu'à travers sa puissance divine. Et oui, il est entièrement Dieu, mais il est aussi entièrement homme. Il faut bien comprendre ça. Tout ce que Jésus a fait, il le fait par et à travers l'Esprit. C'était une véritable incarnation, une vraie entrée dans notre monde, une humiliation profonde par laquelle le Créateur devient réellement une créature. Un bébé à Bethléem, un enfant à Nazareth. Dieu ne prétend pas être un enfant, Dieu devient un enfant. Qui grandit, et qui se développe, et qui expérimente à travers la nature humaine qu'il a prise sur lui, la dépendance à ses parents d'une part, mais aussi la perplexité de l'ignorance, de ne pas savoir certaines choses. Il expérimente la joie de la découverte, tout d'un coup d'apprendre des choses. C'était une véritable incarnation. Et dans tout son développement, le facteur déterminant, c'était le Saint-Esprit. On le voit encore lorsque Jésus commence son ministère au chapitre 3, verset 21. On avance encore d'un pas dans le temps. Chapitre 3, verset 21. À l'âge de 30 ans, Jésus commence son ministère par le baptême. Et nous lisons, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, littéralement, parce que c'est un participe présent en grec, alors qu'il était priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Pendant qu'il priait, alors qu'il était priant, si vous voulez, pour être, c'est pas pour être très précis au moment de son baptême, mais au moment précis où il prie, que Jésus reçoit l'Esprit de la part du Père pour être équipé pour son ministère. Ce qui fait écho à ce que Jésus dit un peu plus loin dans l'évangile de Luc, lorsqu'il s'adresse aux foules, et il dit « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, quoi, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et bref, tout ça pour vous montrer, je m'excuse du détour un peu, mais tout ça pour vous montrer que depuis sa naissance, tout au long de sa croissance, au début de son ministère, comme dans le passage qui nous concerne en Luc 6, verset 12, à chaque étape importante de sa vie, Jésus montre dans la prière sa dépendance à Dieu par l'Esprit. Et si j'insiste tellement là-dessus, c'est parce que ça a des implications très concrètes pour nous aussi. Pour nous qui avons à prendre, dans les décisions que nous avons à prendre personnellement ou en Église. Jésus devait faire un choix ici et il nous montre la voie à suivre dans nos prises de décision. Parce que s'il est vrai que nous ne sommes pas Jésus-Christ, c'est le même esprit qui nous a été donné. C'est le même esprit que nous avons en Christ. Oui, Jésus a... On peut avoir le sentiment, puisqu'il était Dieu, qu'il avait des illuminations comme ça, directes du ciel sur ce qu'il devait faire, mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Par l'esprit, dans la prière, il a cherché la volonté de Dieu. Et c'est le même esprit que nous avons reçu. Et nous pouvons aussi, nous, chercher la direction de Dieu pour nos vies et pour notre Église, dans la prière et la méditation de la parole. Vous connaissez peut-être John Newton, qui est ce pasteur très connu qui a écrit le chant Amazing Grace, qu'on entend des fois, ça fait partie de la culture populaire même maintenant. Et il avait une correspondance très grande, il a écrit beaucoup de lettres, John Newton, et dans une de ses lettres, il écrit ceci, il dit « Dieu guide et dirige ses enfants en leur accordant, en réponse à la prière, la lumière de son Saint-Esprit, qui à son tour leur permet de comprendre et d'aimer les Écritures. » Il dit « La parole de Dieu ne doit pas être utilisée comme un jeu de loterie, hein, où on ouvre et on pique des versets. Elle ne nous est pas non plus donnée pour nous instruire par petites bribes qui, hors de leur contexte, n'ont pas vraiment de poids. Mais elle nous est donnée pour nous communiquer des principes justes et une juste compréhension des choses, afin que nos jugements et nos convictions reposent sur des bases solides et que nous soyons réellement conduits. » Et que nous soyons réellement conduits par l'Esprit et la parole, les deux ensemble. Voilà pour ce premier point. Comment Jésus a-t-il fait son choix? Première question, réponse, il a été conduit. C'était une commission divine. Et c'est une précision extrêmement importante pour nous qui réfléchissons aux fondements de l'Église, aux fondamentaux, parce que ça nous montre que les fondements de l'Église sont extrêmement solides. C'est Dieu qui les a posés. Oui, c'est pas que certains parmi les disciples, tout d'un coup, ont commencé à s'affirmer, à prendre le dessus sur les autres et à s'auto-proclamer apôtres. Non, c'est Dieu qui les a choisis. Selon son plan, c'est Dieu qui pose les fondements de son Église. Donc voilà pour la première question. Deuxièmement, qui sont ceux qui ont été choisis, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Et les 12, les noms nous sont donnés au verset 14 et suivant, regardez. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy c'est l'autre nom de Nathanaël, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Qui sont ceux que Jésus choisit? Réponse, dans un premier temps en tout cas, un groupe spécifique de 12. 12 apôtres, et c'est bien sûr pas anodin, surtout lorsqu'on lit ces quelques versets dans leur contexte. Et c'est pour ça que j'ai lu depuis le début du chapitre tout à l'heure, depuis le début du chapitre 6, parce que on l'a vu, Jésus est confronté à ce moment-là Il est confronté à l'opposition des chefs du peuple juif, de ceux qui représentent la nation juive, les 12 tribus d'Israël, de manière générale. Et face à la colère et au rejet des scribes et des pharisiens à son égard, que fait Jésus? Alors regardez au verset 11, on l'a lu tout à l'heure. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Face à ce rejet, que fait Jésus? Verset 12. En ce temps-là, Jésus, et on connaît la suite, Jésus répond à ce rejet sans un mot, en choisissant 12 apôtres. Il pose un jugement silencieux sur la nation d'Israël en choisissant 12 apôtres, en référence aux 12 tribus d'Israël, bien sûr. Imaginez bien ceux parmi le peuple juif qui allaient voir Jésus se promener, parcourir la Galilée, la Judée avec son groupe de disciples autour de lui. Ils voyaient aussi manifester, représenter de façon visible et sans parole la prétention de Jésus à être le Messie d'Israël, celui qui ramène, qui attire à lui les tribus d'Israël dispersées, qui annonce la fin de l'exil, qui ramène le peuple d'Israël à Dieu. Et non seulement il voyait ça, non seulement il voyait représenter de façon visible et sans parole la prétention de Jésus à être le Messie d'Israël, mais aussi sa prétention à être le sauveur du monde. Parce que Jésus montrait aussi par là, voyez, en choisissant 12 hommes rassemblés autour de lui pour commencer un nouveau peuple de Dieu, il montrait que l'ethnicité du peuple de Dieu est tout d'un coup spirituelle et non plus simplement physique. Qu'elle ne se définit pas simplement par des marqueurs culturels comme la circoncision, comme des lois alimentaires ou autres, mais qu'elle, ce peuple se définit par une chose seulement, la foi à Christ, la foi en Jésus-Christ. Mais l'Église, ça ressemble à rien dans le monde, à rien d'autre. Parce qu'on le voit bien ici, et on le voit aussi dans ces versets 14 à 16, on a un groupe de personnes qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont presque rien en commun, si ce n'est la foi en Jésus-Christ. Regardez-le. C'est pas un accident, c'est comme ça que ça doit être. Regardez le groupe improbable d'apôtres qui sont nommés au verset 14 et suivant. Il y a des liens qui existent là, tout d'un coup, entre des personnes qui n'auraient rien à se dire. Prenez Pierre et Jean, tout d'abord. Pierre, lui, c'est un fonceur, extraverti. Alors que Jean, lui, c'est tout l'inverse. Il est posé, voire même réservé. Si vous vous rappelez peut-être le premier jour, enfin le jour de la résurrection, lorsque ensemble ils se rendent au tombeau, Pierre et Jean, Pierre a beau arriver deuxième, parce que Jean est plus jeune, il court plus vite, Pierre a beau arriver deuxième, c'est lui qui rentre le premier dans le tombeau, il fonce, alors que Jean, lui, il réfléchit, il hésite. Et puis, plus tard, lorsque Jésus se manifeste à ses disciples, au bord du lac de Galilée, après sa résurrection, là encore, c'est Jean, pardon, qui, depuis la barque où se trouvent les disciples, voit le premier que Jésus est là sur le rivage, mais qui c'est qui saute à l'eau tout habillé? C'est Pierre, qui va rejoindre Jésus à la nage, alors que Jean, lui, revient tranquillement dans sa barque. Mais Pierre et Jean, on ne sait pas quels étaient leurs rapports entre eux, mais on a là non seulement probablement deux générations, mais deux caractères contraires, complètement, pour qui il était très certainement difficile de cohabiter. Comme on peut l'avoir dans une église aussi, bien sûr, entre ceux qui vont avoir peut-être tendance à surréagir et ceux qui veulent former un comité à chaque prise de décision, ou ceux qui foncent et ceux qui freinent, etc. Voilà Pierre et Jean. Prenez maintenant Nathanaël et Thomas. Nathanaël, c'est quelqu'un d'assez superstitieux. Vous vous rappelez peut-être de l'incident tout au début de l'évangile de Jean, lorsque Nathanaël vient pour la première fois à Jésus. Il a été amené par Philippe, et Jésus dit, en le voyant arriver, il dit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Et Nathanaël, surpris d'entendre ça, il lui répond, « Maître, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Seulement, plutôt que de le féliciter, on pourrait dire, pour cette belle confession, Jésus le reprend en fait, et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » C'est un peu comme si Jésus lui disait, tu vois trop vite des signes partout, tu vois un peu trop là où il n'y a pas grand-chose. Attends. Nathanaël a ce côté un peu peut-être superstitieux, alors que Thomas, lui, c'est tout l'inverse. C'est un grand sceptique. Il est superstitieux, si le mot existait. Vous rappelez qu'après la résurrection, il dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans ce côté, je ne croirai pas. Ah, ça c'est Thomas. Deux types très différents, là encore, comme on peut les retrouver dans une église où chacun réagit différemment à la prédication de la parole de Dieu ou à l'action de Dieu dans sa vie, où les Thomas vont avoir tendance à penser que les Nathanaël sont des mystiques un peu qui fabulent sur des choses un peu banales, alors que à l'inverse, les Nathanaël pensent que les Thomas sont des gens un peu cyniques qui ne voient pas la main de Dieu à l'œuvre lorsque Dieu fait quelque chose. Mais c'est pas tellement là deux caractères différents, mais deux manières d'appréhender la réalité qui sont assez différentes, Thomas et Nathanaël. Prenez encore Matthieu et Simon. C'est la dernière paire que je pense. Matthieu et Simon. Matthieu, c'est Lévi, c'était un publicain, c'est un percepteur d'impôts qui travaillait à la solde de l'envahisseur romain. Donc on peut s'imaginer quelqu'un d'assez opportuniste. Hein. Il travaille pour l'envahisseur. Alors que Simon, au verset 15, il nous est dit qu'il était appelé le Zélote. Les Zélotes, c'était un groupe de juifs qui se révoltaient contre Rome et qui cherchaient à tout prix à rejeter l'envahisseur romain. L'historien juif qui s'appelle Flavius Joseph écrit concernant les Zélotes: ils ont un si ardent amour pour la liberté que les morts et les supplices les plus atroces qu'ils subissent eux-mêmes ou laissent souffrir aux personnes qui leur sont les plus chères les laissent indifférents, pourvu qu'ils n'aient à donner à nul homme le nom de Seigneur et de Maître. Vous voyez là, nous avons complètement une opposition entre Matthieu et Simon. En plus, Matthieu, de par sa profession, c'était probablement quelqu'un de la haute société, quelqu'un de cultivé, c'est un homme de chiffres et de lettres. Alors qu'on sait que les Zélotes, pour la plupart, c'était des paysans pauvres de la province de Galilée. Probablement, c'était le cas pour Simon aussi. Vous voyez, des classes sociales différentes, un qui s'accommode facilement au compromis, alors que l'autre est très blanc et noir dans ses décisions. Là encore, comme on pourrait le connaître ici, même entre nous, où chacun a une approche différente de la vie et de la liberté chrétienne. Et on pourrait continuer comme ça avec les paires de disciples, mais vous voyez ce que Jésus est en train de nous dire en appelant ces 12 hommes si différents ensemble à partager le même rôle. Et là, on n'est encore que avec des hommes qui sont tous des pêcheurs galiléens. Ils ne sont pas si différents que ça, en fait. Il n'y a même pas la question du genre, de la race, de la culture, de la langue qui entre en compte, comme aujourd'hui. Mais vous voyez ce que Jésus est en train de nous dire. Il dit, je vous ai appelé, c'est ce qu'il nous dit à nous, je vous ai appelé à être une communauté où des gens s'entendent qui, hors de ma seigneurie, ne pourraient juste jamais s'entendre. Une communauté qui indique au monde, voilà ce à quoi doit ressembler une société humaine, véritablement. C'est fort, c'est un vrai défi. Mais c'est ce qu'est l'Église, quand on revient au fondement. Le peuple de Dieu, symbolisé ici par un groupe spécifique de 12 personnes, en référence aux 12 tribus d'Israël, un nouveau peuple de Dieu qui se rassemble autour de Jésus-Christ, et c'est ça, c'est lui qui nous donne notre unité, rien d'autre. Voilà pour ce deuxième point. Et troisièmement, la troisième question, pourquoi ? Plus brièvement, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus choisit 12 apôtres pour être apôtres. Alors dans le Nouveau Testament, ce terme il peut être utilisé en référence à beaucoup de choses. On le voit souvent, soit comme un terme technique très spécifique aux 12, ici on va y revenir, je vais dire un mot là-dessus tout à l'heure, mais ça peut aussi, il est aussi utilisé en référence à quelqu'un qui aurait vu et qui a été commissionné par le Seigneur ressuscité, comme Paul, par exemple, ou apôtre, c'est un terme qui est utilisé aussi en référence à, par exemple, un émissaire quelconque, quelqu'un qui porte une lettre, comme Épaphrodite dans l'Épître aux Philippiens, par exemple, ou encore en référence à un missionnaire itinérant, un peu comme Barnabas dans le livre des Actes. Est-ce que toutes ces personnes ont en commun les 12, Paul, Épaphrodite, Barnabas et d'autres qui sont appelés apôtres, c'est la notion d'envoi. Parce qu'apostolos en grec, ça veut dire tout simplement envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Et dans ce sens-là, on est tous apôtres. On est tous apôtres. Envoyés par Jésus pour prêcher la bonne nouvelle du salut qu'il a accompli dans sa mort et sa résurrection. Si Christ nous a attirés à lui, nous qui étions dans les ténèbres, loin de lui, à vouloir être maître de notre vie sans nous préoccuper de ce que Dieu pensait, s'il nous a attirés hors de ce royaume des ténèbres à son royaume de lumière, c'est pour nous envoyer. Et où qu'on soit, on n'a pas besoin d'être missionnaire à l'autre bout du monde, où qu'on soit, on est et on a à se considérer comme envoyé par Dieu, par Jésus-Christ. Donc dans ce sens-là, on est tous apôtres. Mais comme je disais, il y a un instant, les 12 ont un rôle très particulier. La prédication des 12 apôtres a une signification particulière parce qu'ils ont été des témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, vous voyez, plus technique, qu'il faut comprendre leur appel ici à être des apôtres. Et dans ce sens-là, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Hein. On n'utilise plus ce terme. Il y en avait 12. Et vis-à-vis de tous les autres témoignages, y compris du nôtre, c'est le leur qui a un poids déterminant. Il est canonique, hein, on pourrait dire. C'est leur témoignage qui fait foi. C'est ce que Paul dit en Éphésiens chapitre 2. Si vous venez juste voir avec moi, Éphésiens 2. Où Paul parle de ce nouveau peuple composé de juifs et de non-juifs. Où il montre, comme je le disais avant, que l'ethnicité du nouveau peuple de Dieu est maintenant spirituelle plutôt que physique. Et il dit en Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous... en référence particulièrement aux non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Écoutez bien, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que je disais au début. Hein. Jésus, contrairement à ce qu'on pense parfois, à ce qu'on croit trop souvent, Jésus ne s'est pas contenté de rassembler autour de lui un groupe de disciples fidèles sans les douer en même temps de liens solides. C'est l'Église, c'est un groupe qui se forme, qui s'ordonne, qui se lie à un ministère précis, à une autorité concrète, l'autorité unique, fondamentale, c'est le fondement, et intransmissible des 12 apôtres qui sont nommés par leur nom dans ce passage en Luc 6. Un commentateur a dit par rapport à ce passage en Luc 6 la chose suivante, je vais vous lire ça, écoutez ce qu'il dit. Comme Jésus a créé le ministère des apôtres en écoutant les directions divines, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsque Jésus est en prière, hein, nous devons aussi l'écouter, c'est-à-dire écouter Christ en demeurant attentif à la parole des apôtres. Dans le canon du Nouveau Testament, l'Église a conservé leur témoignage comme il a été prêché par eux et par leurs élèves. Le Nouveau Testament est la voie permanente et actuelle de l'apostolat dans l'Église. C'est de lui, de la Bible, que découle toute autorité ecclésiastique. C'est devant lui que l'Église est responsable. Et il dit, écoutez bien encore, c'est pourquoi la véritable succession apostolique consiste dans la transmission du message et non pas, selon la doctrine catholique romaine, dans une succession légale du ministère apostolique. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a cette idée que le pape est le successeur légal des apôtres, et donc qu'ils ont la même, une autorité du même type que les apôtres. Mais c'est pas ce que Luc, dans ce passage, nous apprend, c'est pas ce que Paul nous dit lorsqu'il nous dit que l'Église a été fondée sur les apôtres, que les apôtres sont le fondement. S'il y a une succession apostolique, elle consiste dans la transmission du message. Et cet auteur termine comme ça, il dit « Dans la voix des apôtres, l'Église perçoit la voix de son Seigneur. » Bien, j'aimerais conclure juste en vous disant ceci. Parce que l'Église est née de la volonté créatrice de Jésus-Christ lui-même, qui agit sur commission divine, c'est ce qu'on a vu au premier point, par le choix, deuxièmement, d'un groupe spécifique, à qui il a donné une tâche unique, troisièmement. Pour toutes ces raisons, nous pouvons réellement dire et confesser, comme on l'a fait dans le symbole des apôtres au début, je crois, credo, à la Sainte Église universelle, parce que c'est Dieu qui en a posé les fondements, c'est lui qui l'a bâti, aujourd'hui encore, et ici aussi. C'est une promesse extraordinaire de savoir que le même Dieu qui a posé les fondements de son Église universelle, c'est lui qui a posé les fondements de son Église locale. Et qu'il désire la bâtir, et il désire poursuivre son œuvre en nous et à travers nous, ici où nous sommes. Alors que nous puissions, à l'image de Christ, qui a reçu cette commission divine, nous aussi dépendre de Dieu par l'Esprit dans la prière, que nous puissions, deuxièmement, à l'image de ce groupe spécifique d'apôtres, témoigner nous aussi de l'unité que nous avons en Christ, et que nous puissions, troisièmement, aussi transmettre le témoignage des apôtres qui avaient une tâche unique, mais c'est à nous de transmettre ce message maintenant concernant Jésus à d'autres, que nous puissions vraiment partager cette bonne nouvelle autour de nous ici, dans cette région. Amen. Je vous invite à répondre à ce message sur l'Église, sur les fondements de l'Église par le chant d'un cantique.
Un cantique qui se trouve dans le « À toi la gloire ».